VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriac.
Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition du mardi 22 décembre 2015. À la une ce soir...
Présidentielle au Congo-Brazzaville, le président Denis Sassou Nguesso veut avancer le vote.
Et en RCA, le parti de l'ex-président François Bozizé annonce son soutien à Anissé Georges Dologuélé.
RDC, un nouveau front de l'opposition, réclame un calendrier électoral fin janvier, mais le gouvernement insiste d'abord sur la tenue du dialogue national.
Au Burundi, Amnesty International dénonce les exactions commises par les forces de sécurité.
Lutte contre le groupe État islamique, les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui dans le centre de Ramadi.
Et puis l'état d'urgence proclamé pour 10 jours au Mali.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Denis Sassou Nguesso veut avancer la présidentielle au premier trimestre 2016 à Brazzaville. Le président congolais a révélé son intention lors d'une adresse aux élus du Parlement réunis en congrès. L'opposition conteste déjà l'idée, Nicolas Pinault.
Oui, le président congolais a justifié sa volonté d'anticiper le scrutin par la nécessité de mettre en œuvre, je cite, la nouvelle dynamique institutionnelle. Au terme de la nouvelle constitution congolaise, promulguée en novembre et permettant à M. Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat, la présidentielle devait avoir lieu en principe en juillet 2016. La nouvelle constitution a été adoptée lors du référendum du 25 octobre, dont l'opposition a rejeté les résultats comme une tricherie. Elle a fait sauter les deux verrous interdisant à M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat présidentiel en 2016, la limite d'âge est celle du nombre de mandats. Âgé de 72 ans, Denis Sassou Nguesso cumule 31 ans à la tête du Congo, ce pays d'Afrique centrale de près de 4,5 millions d'habitants. Il a dirigé le Congo à l'époque du parti unique de 1979 jusqu'aux élections pluralistes de 1992 qu'il a perdu. Revenu au pouvoir par les armes en 1997, il a été élu président en 2002 et réélu en 2009. Au micro de Nguelan Goussou, correspondant de VOA Africa Brazzaville, l'opposant Jean-Yves Tadzi du Congrès africain pour le progrès dénonce l'illégalité de Denis Sassou Nguesso. Selon lui, le chef de l'État n'a pas la légitimité pour diriger le Congo.
Présidentielle en République centrafricaine, le vote c'est dimanche. Le parti de l'ex-président François Bozizé, dont la candidature a été rejetée, annonce son soutien à Anissé Georges Dologuélé. Le parti Kouanakoua affirme avoir signé un accord pour qu'Anissé soit élu dès le premier tour. On y reviendra en seconde partie d'émission.
Burundi, le Conseil national de sécurité rejette de nouveau la décision de l'Union africaine de déployer une mission de paix dans le pays. La menace de génocide qui justifierait ce déploiement n'est qu'une machination des détracteurs du gouvernement, affirme cet organe, composé notamment du président et des ministres de la sécurité publique et de la défense. Le Burundi, qui est l'un des pays contributeurs de troupes en Afrique et ailleurs, est capable d'assurer la sécurité de sa population, assurent les autorités. L'Union africaine a annoncé en fin de semaine passée le déploiement d'une mission de prévention et de protection au Burundi, forte de 5000 hommes, pour une durée de 6 mois renouvelable. Si un tel déploiement intervient sans son aval, cette mission serait considérée comme une force d'invasion et d'occupation, prévient Bujumbura.
Et c'est dans ce contexte qu'Amnesty International publie un rapport accablant sur les violences commises par les forces de sécurité burundaises, un sujet sur lequel on reviendra en partie magazine de notre émission. L'état d'urgence proclamé pour 10 jours au Mali, le gouvernement met en avant la situation sécuritaire dans le pays et dans la sous-région. La mesure d'exception vise à donner aux autorités compétentes les moyens de leur permettre de mieux circonscrire et combattre tout projet d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs biens et toute tentative de trouble à la quiétude des populations, indique le communiqué officiel.
Bilan des violences d'hier à Djibouti, le gouvernement fait état d'au moins 7 civils tués, dont 6 hommes à coups de machette et une jeune fille par balle. Ces affrontements avec la police en périphérie de la capitale auraient également fait 23 blessés. Les forces de l'ordre compteraient 50 blessés dans leur rang. L'opposition, elle, parle de 19 morts. Les violences ont éclaté lors d'une cérémonie religieuse. Les policiers ont voulu déplacer la foule vers un lieu mieux adapté, explique le gouvernement.
Conflit au Soudan du Sud, première rencontre aujourd'hui à Djouba entre gouvernement et rebelles. Le chef des médiateurs est-africains a exhorté les représentants des deux camps à aplanir leurs différends en vue de mettre en application l'accord de paix signé déjà fin août, mais les combats n'ont pas cessé pour autant. Jacques Aristide.
La délégation rebelle, arrivée hier dans la capitale sans son chef Riek Machar, doit négocier la formation d'un gouvernement de transition et d'union nationale avec le gouvernement du président Salva Kiir. Le chef des médiateurs, le Botswanais Festus Mogae, n'a pas mâché ses mots. Pour lui, cette rencontre doit aller au-delà des beaux discours et de vaines paroles. Beaucoup restent sceptiques sur la réalité de la paix. Pour lever ces doutes compréhensibles, il faut des mesures concrètes, encore dit Festus Mogae. Le conflit sud-soudanais, marqué par des atrocités attribuées aux deux camps, a fait des dizaines de milliers de morts et chassé plus de 2,2 millions de personnes de chez elles. Les délégués ont observé une minute de silence en mémoire des victimes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Revers pour le groupe État islamique en Irak, les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui dans le centre de Ramadi, capitale de la province d'Al-Anbar dans l'ouest du pays. Elles ont commencé à purger les quartiers résidentiels, a déclaré le porte-parole des services irakiens de lutte antiterroriste. Idrissa Seloudia.
Selon le même porte-parole, les forces irakiennes avançaient sans grande résistance, sauf de la part de snipers et de kamikazes. Samedi, le ministre irakien de la Défense, Khaled Al-Obaidi, avait prédit une reprise totale de Ramadi avant la fin de l'année. Sa reconquête est une priorité pour le gouvernement de Bagdad depuis la prise de la ville par les djihadistes en mai dernier et la défaite cinglante infligée alors à l'armée. Ramadi, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, est le chef-lieu de la vaste province majoritairement sunnite d'Al-Anbar. Ramadi, situé à une centaine de kilomètres à l'ouest de la capitale, est le chef-lieu de la vaste province majoritairement sunnite d'Al-Anbar. Dans leur tentative de la reprendre, les forces gouvernementales ont bénéficié du soutien de frappes aériennes de la coalition internationale dirigée par Washington. Le groupe État islamique est sur la défensive en Irak depuis sa prise en mai de Ramadi. Il a perdu Tikrit et Baiji au nord de Bagdad, où les unités de mobilisation populaire, une coalition de milices principalement chiites, sont également intervenues. Ces dernières sont toutefois tenues à l'écart à Ramadi, un bastion sunnite où leur implication directe serait mal perçue.
Les États-Unis ont annoncé avoir ajouté 34 noms à leur liste noire financière liée à la crise en Ukraine, afin de cibler des séparatistes pro-russes et des individus tentant de contourner les sanctions existantes. Au terme de ces sanctions, les éventuels avoirs de ces individus aux États-Unis sont gelés et il est interdit à toute société ou tout ressortissant américain de commercer avec eux. Moscou est sous le coup de sanctions américaines et européennes pour son rôle présumé dans le conflit entre forces ukrainiennes et séparatistes pro-russes, qui a fait, rappelez-vous, plus de 9000 morts depuis avril 2014.
Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont convenu de coordonner leurs actions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient. Selon une déclaration du Kremlin, les deux hommes ont discuté aujourd'hui par téléphone de la crise en Syrie.
Le nombre de réfugiés accueillis en Europe durant l'année 2015 a dépassé la barre d'un million, rapporte aujourd'hui l'Organisation internationale pour la migration. C'est le plus large influx de réfugiés sur le vieux continent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En provenance surtout du Moyen-Orient et d'Afrique, 1 5 504 migrants ont fait la traversée par une combinaison de voies irrégulières terrestres et maritimes, ce qui représente une augmentation de 400% par rapport à l'an dernier.
Haïti, le Conseil électoral annonce le report sine die du second tour de la présidentielle de dimanche. Une commission d'évaluation est en train d'examiner les résultats du premier tour.
Le soldat américain Beau Bergal, prisonnier des talibans pendant 5 ans, a comparu aujourd'hui pour désertion devant la justice militaire américaine, 1 an et demi après son échange controversé contre 5 détenus de Guantanamo. John Lyndon.
L'audience à Fort Bragg, en Californie du Nord, était une audience de procédure destinée à fixer le cadre de son procès en cour martiale pour désertion et mauvaise conduite face à l'ennemi, un chef d'inculpation pour lequel il court la prison à perpétuité. Le sergent américain de 29 ans a entendu les charges retenues contre lui, mais a choisi de ne pas plaider coupable ou non coupable, préférant réserver cette décision pour le procès lui-même. Le soldat américain va devoir expliquer pourquoi, en juin 2009, il avait quitté seul, clandestinement, sa base militaire en Afghanistan avant d'être capturé par les talibans. Plusieurs membres de son unité l'ont accusé d'avoir déserté. Le sujet de la libération de Bob Bagdad le 31 mai 2014 est extrêmement sensible pour l'administration de Barack Obama, accusé par les conservateurs d'avoir fait une trop grande concession en acceptant de libérer 5 cadres talibans pour l'obtenir.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Le nouveau ministre des Finances sud-africain Pravin Gordhan, en poste depuis une semaine, a refusé lundi soir la renégociation d'un contrat entre la compagnie aérienne parapublique South African Airways et Airbus. Cette renégociation avait déjà été refusée par l'ancien ministre des Finances, qui estimait que la transaction n'était pas viable financièrement. Sous tutelle du ministère des Finances, South Africa Airways emploie quelques 10 000 personnes et survit grâce à des prêts garantis par l'État. Le conseil d'administration de la BAD a approuvé le 17 décembre un prêt de 15,74 milliards de francs CFA à Kribi Power Development Corporation, filiale de Globeleq, pour l'extension de la centrale thermique à gaz de Kribi au sud du Cameroun. Le projet Kribi 2, d'un montant de près de 92 milliards de francs CFA, permettra de faire face au déficit énergétique du Cameroun. En Algérie, selon le magazine Jeune Afrique, la balance commerciale a enregistré un déficit de 12,626 milliards de dollars entre janvier et novembre 2015. L'année dernière, à la même période, le pays affichait un excédent de 5,45 milliards de dollars.
La Minute Éco, merci John.
L'actualité sportive, ce soir, c'est avec Nicolas Pineau. Salut Nicolas.
Bonsoir, chérubin.
On va parler de la suspension provisoire de Paul Put en Jordanie.
Oui, la Fédération jordanienne de football a pris cette décision après la demande d'arrestation immédiate de la justice belge à l'encontre de l'ancien sélectionneur du Burkina Faso. Les Jordaniens savaient que des nuages judiciaires planaient au-dessus de la tête du technicien belge en l'engageant en juillet 2015. Mis en cause dans une affaire de corruption et de trucage de matchs entre 2004 et 2006, Paul Put a donc été suspendu par la fédération jordanienne. Les instances du football jordanien ont pris cette décision dans l'attente, je cite, de clarification sur le statut légal de Paul Put.
Pape Diouf apporte du soutien à Lamine Diack.
L'ancien président de l'OM, Pape Diouf, s'est dit très peiné par l'affaire Lamine Diack, qu'il considère comme un véritable coup de tonnerre. On l'écoute tout de suite au micro de notre correspondant à Dakar, Amdine Sy.
Il est évident, je dirais, que dans cette affaire, il doit y avoir de la maladresse, il doit y avoir de la précipitation. Quand on connaît Lamine, bon, c'est plutôt un homme qui a toujours fait preuve d'intégrité. Qu'il se soit laissé aller dans une telle mascarade et qu'il soit aujourd'hui aux griffes de la justice, c'est vrai que cela ne peut que surprendre ceux qui le connaissent et attrister en tout cas ceux qui l'aiment bien. Cette mise sur la place publique des propos tenus par Lamine Diack lors de sa garde à vue sur procès verbal ont constitué, je le redis, un véritable tonnerre. Cela a donné évidemment à l'affaire une nouvelle dimension, puisque jusqu'ici, beaucoup de gens pensaient à la machination, beaucoup de gens pensaient qu'il y avait sans doute une voie de sortie pour Lamine. Mais ces déclarations-là ont eu plutôt tendance, je dirais, à l'enserrer, à en faire un coupable, et ça, on peut effectivement le regretter.
Pape Diouf, ancien président de l'Olympique de Marseille.
En basket, quels sont les derniers résultats dans la NBA, Nicolas ?
Atlanta a passé une douce nuit après sa victoire contre Portland, 106-97, ce qui lui permet de remonter à la troisième place de la conférence Est. Chicago a la gueule de bois, en plus d'une troisième défaite d'affilée à domicile face à Brooklyn, 105-102. Les Bulls ont perdu Joakim Noah, blessé à une épaule. San Antonio est resté invaincu à domicile en dominant Indiana, 106-92. Grâce notamment aux 24 points de Leonard, Oklahoma City s'est enfin imposé de justesse sur le parquet des Clippers de Los Angeles, 100-99, grâce à Russell Westbrook, 33 points, et Kevin Durant, 24 points.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guériec et Chérubin Dorcil en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, Gabi, la République centrafricaine.
Coup de théâtre dans la classe politique à Bangui. Après l'invalidation de la candidature de François Bozizé, son parti, le KNK, apporte son soutien au candidat de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, à l'élection présidentielle du 27 décembre. Le président de l'Union pour le renouveau centrafricain, joint par Félix Yepassi Zembro.
Nous avons signé ce matin un accord politique et électoral qui indique que tout le parti KNK m'apporte son soutien pour les élections présidentielles, puisqu'ils n'ont plus de candidat. Celle de la candidature de François Bozizé a été invalidée.
Mais pourquoi le soutien du KNK et pas d'un autre parti politique?
Mais nous avons déjà signé trois accords politiques. Nous avons signé un accord politique avec le mouvement indépendant, le mouvement centrafricain des indépendants, le MUNI. Nous avons signé un accord politique avec le PAD. Et nous avons signé un accord politique avec le PLD. Et le KNK est le quatrième parti avec lequel nous signons un accord politique.
Quelle place entendez-vous réserver à François Bozizé une fois élu?
Non, François Bozizé est un ancien chef d'État. Et donc, il jouira de son statut d'ancien chef d'État, sous réserve, vous savez, chaque être humain dans ce monde est présumé innocent, sauf s'il est condamné par la justice nationale ou internationale.
Anissé Georges Dologuélé, président de l'Union pour le renouveau centrafricain, URCA. Et donc, comme nous l'avons souligné, le KNK apporte son soutien au candidat Anissé Georges Dologuélé plutôt qu'à Faustin Archange Touadéra, l'ancien Premier ministre de François Bozizé. Les explications de Bertin Béat au micro de Félix Yepassi Zembro.
Archange Touadéra a été 5 ans durant promis de François Bozizé. Seulement, la procédure d'investiture du candidat prévue par nos statuts impose que ce soit le conseil politique qui puisse le faire. Or, Archange Touadéra s'était présenté déjà en candidat indépendant, donc n'ayant pas reçu l'onction du parti pour une telle action. Et donc, le parti, à l'époque, lors de son conseil politique, qui était tenu au mois d'août dernier, avait suspendu Touadéra de ses rangs. Et donc, c'est fort de cela que nous ne pouvons pas apporter un quelconque soutien à Archange Touadéra qui n'a pas suivi la procédure d'investiture de candidat à l'élection présidentielle au sein de notre parti.
Bertin Béat, le secrétaire général du parti KNK de François Bozizé.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Deux thèmes au menu, Rwanda. Paul Kagame risque-t-il de compromettre son bilan s'il se maintient au pouvoir au-delà des limites du mandat présidentiel? Et République centrafricaine, les élections seront-elles déterminantes pour un retour à la paix? Questions et commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Cap maintenant sur la République démocratique du Congo, où une nouvelle coalition baptisée Front Citoyen 2016 vient de voir le jour. Elle réunit les dirigeants de partis politiques et de la société civile. Ses membres, dont l'opposant Vital Kamerhe de l'UNC, Félix Tshisekedi, fils du chef de l'UDPS, Moïse Katumbi, entre autres, ont exigé le week-end dernier la publication d'un calendrier électoral consensuel au plus tard le 31 janvier 2016. Selon Radio Okapi, le Front Citoyen 2016 réclame également le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février. Alors, qu'en pense le gouvernement du président Joseph Kabila? J'ai posé la question à son porte-parole, Lambert Mende Omalanga.
Nous n'avons pas, nous, tendance à prendre cela très au sérieux. Tout d'abord, il n'y a au Congo personne qui a qualité pour donner des injonctions à la Commission électorale nationale indépendante. Le gouvernement, plus la majorité, encore moins la minorité, il n'y a personne qui a qualité de la loi congolaise pour donner des injonctions à la Commission électorale. Elle est indépendante. Et encore moins la minorité, ou bien ce petit groupe qui n'est même pas représentatif de toute l'opposition, n'a qualité de donner des injonctions à la Commission électorale nationale indépendante. Nous savons qu'il y a des problèmes. Des problèmes qui risquent effectivement de créer une perturbation du calendrier électoral. C'est pour cela que le président essaye de convoquer tout le monde en un dialogue national pour essayer de voir quelles solutions apporter à ces retards.
De quoi s'agit-il exactement?
Il y a des problèmes de financement. La commission a sorti un budget de 1,2 milliard. Nous n'avons pas cet argent, nous n'avons que 500 millions. Donc nous voulons avoir peut-être des modalités qui soient conformes à nos moyens.
Aucune chance que ce calendrier soit prêt avant le 31 janvier?
Ah, parler de date, c'est vraiment un peu s'aventurer dans l'inconnu, parce que nous ne savons pas encore si le dialogue va se tenir quand, puisqu'il n'y a pas encore même de facilitateur international. Le président s'est rapproché de ce point de vue en proposant à M. Ban Ki-moon quelques noms parmi lesquels il pourrait désigner un facilitateur. Tous ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait une facilitation internationale viennent à ce dialogue que nous appelons de tous nos voeux. Donc parler de date, c'est un peu avancer un peu légèrement.
Et qu'en est-il de ce dialogue justement, M. Mende?
Oh, il avance. Nous souhaitons vraiment que tout le monde y vienne, parce que le Congo appartient à tout le monde, y compris à ces gens de l'opposition.
Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Amnesty International accuse les forces de sécurité burundaises d'avoir procédé à des exécutions sommaires lors des violences du 11 décembre, faisant au moins 87 morts à Bujumbura. Selon l'organisation, les exactions ont particulièrement visé les quartiers acquis à l'opposition, où des civils ont été sortis de leur maison et abattus dans la rue. Pour des précisions, Timothée Donangmaï a joint à Dakar Aliou Ntine, directeur régional pour l'Afrique de l'Ouest.
Il y a eu beaucoup de jeunes, dont un jeune de 15 ans qui a été également tué. Vraiment, ça a été des exécutions extrajudiciaires qui ont ciblé particulièrement des civils habitants surtout dans des quartiers où il y a les petits. Et ils tirent en tirant des balles dans la tête. Donc les chercheurs d'Amnesty International qui ont fait à peu près 15 jours ont été quand même les témoins de ces meurtres avec des cadavres qui jonchaient le sol partout à Bujumbura. C'est pour ça que Amnesty International a lancé un appel pour que la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, que l'Union africaine et que la communauté internationale puissent envoyer très rapidement des missions pour protéger les populations qui sont véritablement menacées aujourd'hui.
Justement, les autorités burundaises s'opposent au déploiement d'une mission africaine de prévention et de protection, disant qu'elles sont tout à fait à même de contrôler la situation dans leur pays.
Mais vous avez bien raison, parce que quand même pendant un certain temps, on a alerté, parce qu'il y avait des morts partout. Il y avait une espèce de huis clos dans lequel il n'y avait pratiquement aucun regard extérieur, aucun témoin extérieur. Et c'est dans ce cadre, effectivement, que ces exécutions étaient faites d'une certaine ampleur. Hein. Donc, l'Union africaine a effectivement décidé d'envoyer une troupe de 5000 soldats. Mais bon, aujourd'hui, paraît-il, le Congrès et le Sénat devraient se réunir en Congrès pour pouvoir examiner la demande de l'Union africaine et puis donner une réponse.
En fait, le Conseil national de sécurité du Burundi s'est réuni et a rejeté cette idée d'envoyer une mission africaine de protection et de prévention.
En tout cas, je pense qu'à partir de ce moment, le Conseil de sécurité des Nations Unies doit prendre ses responsabilités pour trouver les moyens vraiment d'y envoyer vraiment une mission pour éviter la catastrophe.
C'était Aliou Ntine, joint à Dakar.
La Voix de l'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
À Djibouti, des civils ont été tués dans des affrontements hier lundi à l'aube dans la localité de Bulhoko, près de Balbala, en périphérie de la capitale, Djiboutiville. Le bilan officiel, mais contesté par l'opposition, fait état de 7 morts et de 73 blessés, dont 50 policiers. L'Union pour le Salut National, USN, une coalition de 7 partis djiboutiens d'opposition, dénonce ce qu'elle qualifie de carnage contre une population civile participant à une cérémonie traditionnelle. Eric Manirakiza a joint à Djibouti le délégué aux relations extérieures de l'USN, Maître Djama Amaré Médal.
Des Djiboutiens et des Djiboutiennes s'apprêtaient à organiser une cérémonie religieuse traditionnelle qui regroupait l'ensemble des membres d'une grande famille djiboutienne. Vers 4h30 du matin, les forces de l'ordre, plus particulièrement la police, a attaqué les personnes présentes sur le lieu en leur demandant de dégarpir et de dégager les lieux. Par la suite, les policiers ont usé de la force pour les faire dégager, d'où un affrontement entre la police et les citoyens présents sur les lieux. Après quelques moments d'accalmie, des renforts des forces de l'ordre ont été engagés dans l'opération, et notamment des renforts de la gendarmerie et de l'armée. Et c'est là que vraiment il y a eu un véritable carnage qui a duré quelques heures. Les informations, le bilan de ce carnage font état de 19 morts et de centaines de blessés.
Le gouvernement dit que cette population était armée de couteaux, de machettes et de fusils Kalachnikov. Est-ce que vous le confirmez?
Je ne peux en aucun cas confirmer ces déclarations, et elles ne correspondent absolument pas à celles dont nous disposons et qui nous ont été directement rapportées sur le terrain par les participants à cette cérémonie.
Et selon vous, cette intervention n'était pas justifiée. Qu'est-ce que vous allez faire après?
C'est une véritable tuerie qui a eu lieu. Nous le déplorons très profondément. L'USN a fortement condamné le comportement des forces de l'ordre et a adressé ses sincères condoléances à l'ensemble des familles des victimes. Elle appelle également l'ensemble du peuple djiboutien à la vigilance, parce que ce sont des événements d'une extrême gravité dont les risques qu'ils peuvent induire sont incalculables pour la paix, la stabilité et l'existence même de la République de Djibouti. Tout naturellement, nous ne pouvons pas laisser cela sans suite. Les actions judiciaires nécessaires pour certaines sont déjà engagées, d'autres suivront, même si nous savons par avance que ces plaintes ne seront pas traitées comme il se doit par une justice entièrement aux ordres du gouvernement.
Maître Djama Amaré Médal, joint à Djibouti.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Georges Léonard Sagno, assisté à la console de notre ami Bynum, Curtis Bynum. Présentation, Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On continue la conversation sur Facebook. Partagez vos points de vue, vos photos, commentez des sujets, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.